Bonjour à tous et bienvenue dans Active Zoom, l'émission dédiée aux artistes locaux et à la culture. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Samuel et de Ellie Garcia, qui forment le duo Garcia, un mélange de musique afghane et de musique andalouse. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Avant de commencer cette interview, on va écouter justement un extrait d'un de vos morceaux qui s'appelle One Time. C'est un arrangement que vous avez fait de l'artiste Rabi Abou Khalil. On écoute ça. Alors je disais en introduction du coup que votre musique c'est un mélange de musique afghane et andalouse, est-ce que c'est ça?
Alors oui et non, alors afghane oui puisqu'on va retrouver le robab, donc le luth afghan, qui est le luth traditionnel afghan, mais andalouse oui et non puisque bon bah on est inspiré par des groupes qui, certains groupes oui comme bah, je sais pas, Radio Tarifa,
ouais, je pensais à ça aussi,
pensais
ouais.
à ça aussi qui sont plutôt du sud de l'Espagne, et puis andalou parce que bah on a la moitié de notre famille qui est de Grenade, donc bah on a du sang espagnol aussi, mais oui, après notre musique c'est un voyage entre l'Afghanistan, la Turquie, le Maroc, donc entre plus grossièrement le Proche, le Moyen-Orient et le Maghreb.
Alors justement on parle peut-être, en tout cas moi si j'ai parlé de musique afghane, c'est en lien justement avec l'instrument que vous utilisez qui est en fait un rubab afghan.
Oui, le rubab, donc c'est l'instrument national afghan, donc c'est un instrument à trois cordes en nylon. Donc sur le mien il y a 19 cordes, mais ce sont des instruments taillés dans des troncs, dans du mûrier, et donc avec une peau de chèvre et des cordes sympathiques qu'on va retrouver comme sur le sitar en Inde, différents instruments. Et donc voilà, on va retrouver une résonance assez proche du sitar et en même temps des cordes en nylon. Donc voilà, le principe de l'instrument, c'est qu'il y a une résonance très particulière, un grain particulier. Et voilà, on doit accorder toutes ces cordes métalliques sympathiques sur le haut pour ensuite jouer sur trois cordes en nylon qui entrent en résonance avec ces cordes sympathiques. Donc on va jouer sur une gamme qui est en correspondance avec l'accordage des cordes sympathiques.
Comment est-ce que vous en êtes venu justement à cet instrument ?
Alors, c'est du fait que j'ai travaillé pendant un moment avec un autre projet plutôt musique actuelle, électro, raga, jungle, drum and bass à l'époque. Pendant un peu plus de 3 ans, j'ai travaillé avec au sein du groupe Walu Beach Consortium, qui était un projet autour d'un rappeur orléanais d'origine afghane. Et c'est la rencontre de cette personne-là qui m'a initié au rubab et différents afghans aussi, qui m'ont beaucoup orienté sur cet instrument et sur la culture afghane, la musique.
Alors vous, Samuel, justement, vous jouez des percussions et notamment aussi, vous utilisez la derbouka en fait. Hein. C'est aussi un instrument que l'on peut rencontrer en Afrique du Nord. Vous êtes un peu attirés tous les deux justement vers des instruments que l'on peut découvrir ailleurs.
Oui, il y a un aspect très curieux, très riche. Et puis, il y a un nombre d'instruments incroyables et de sons liés à tous ces instruments qui sont vraiment intéressants. C'est une recherche au niveau des percussions, par exemple. C'est dans une percussion, on va parler du pays d'où il vient. Enfin, sans parler, je veux dire, jouer d'une percussion traditionnelle, ça va éveiller d'où vient cette percussion, à quelle époque elle était jouée, dans quelle musique elle était jouée. Et à chaque fois, il s'agit d'un contexte. Quand on parle de musique traditionnelle, il y a des contextes qui sont vraiment intéressants, historiques, culturels. Donc, rien que ces côtés-là sont hyper intéressants. Alors, dans le duo Garcia, l'instrument principal, c'est une derbouka égyptienne. C'est une percussion qui a quand même beaucoup fait sa place dans notre monde. Aujourd'hui, la derbouka est quand même connue. La formule de base du duo Garcia, derbouka rubab, n'existe pas, traditionnellement n'existe pas. C'est-à-dire que c'est deux instruments qui sont très très représentatifs de régions du monde, qui sont complètement ancrés dans la culture depuis des siècles, mais qui ne se retrouvent pas géographiquement, quoi. Sont séparés géographiquement et culturellement, et du coup nous ne sont pas joués ensemble traditionnellement, et donc bah nous on les fait se rejoindre, et du coup le fait de faire ça crée une esthétique qui nous permet d'aller d'un côté à l'autre, qui nous permet aussi bien d'aller toucher de la musique afghane dans une esthétique très proche de la musique indienne. On peut aller vers ça, et c'est très proche de ce qu'on va trouver aussi au Maghreb, ce pourquoi est fait la derbouka. Et donc la derbouka et le rubab se retrouvent vraiment comme ça, se retrouvent très bien, quoi. Se retrouvent sans problème, il n'y a aucun problème à lier ces deux instruments, quoi.
Alors, en termes de formation musicale, du coup, vous avez quel genre de formation ? Est-ce que vous avez fait une formation jazz, comme beaucoup de musiciens ici à Tours, peut-être ?
Ouais, on est passés tous les deux par Jazz à Tours, pas aux mêmes époques, mais on est tous les deux passés par cette école d'improvisation, de musique jazz, et qui, en fait, nous a beaucoup enrichi pour tous les styles, parce que même dans ces styles qu'on joue là, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le jazz, même s'il y a toujours de l'improvisation, ça nous a beaucoup servi. Voilà.
Vous êtes batteur, vous, justement, à la base ?
Ouais.
Vous avez une formation de batteur de jazz ?
C'est ça, ouais. Quand on regarde une batterie de jazz, on va dire basique, hein, je parle pas des batteurs qui ont 15 tomes, parce que même dans le jazz, ça existe, mais très habituellement, la batterie de jazz est très simple. On va trouver une ride, un charlet, et des fois une cymbale en plus, et deux tomes, une caisse claire. Enfin, c'est vraiment la version simple de la batterie. Et en fait, dans ce qu'on joue, dans mon set de percu, au final, c'est un peu ça, quoi. Il y a une sorte de charlet, sauf que c'est un tambourin au pied. Il y a une sorte de grosse caisse où c'est un tom basse qui est plutôt en mode tambour. La derbouka qui pourrait jouer une sorte de caisse claire, puis des petites cymbales. Donc, en fait, au final, on est quand même assez proche en termes de nombre, mm-hmm. et même de disposition. Ça ressemble, mais on n'est pas du tout sur les mêmes sons, effectivement.
Oui, alors moi, pareil, j'ai eu une formation de jazz. J'ai commencé tôt la guitare. J'ai d'abord commencé à la guitare à 11 ans. Et puis, à 16 ans, j'ai commencé l'école de jazz de Tours. Je suis resté 3 ans. J'ai d'autres projets, du coup, où je suis à la guitare. Le projet Hoop, qui est un duo guitare et corde harmonie. Et donc, j'ai participé à d'autres projets, entre autres, antérieurement. Et pour moi, la guitare, en tout cas, la formation, l'apprentissage... de tout ce parcours jazz, entre guillemets, mais en tout cas l'étude de l'harmonie, savoir identifier une harmonie, enfin comprendre en tout cas l'harmonie, quoi. Classique, jazz, pour nous c'est ce qui nous permet aussi d'aller un peu où on veut, et c'est l'accès, l'accessibilité un peu à différentes cultures aussi, c'est pour nous dire, une fois qu'on a ces atouts de compréhension de la musique, on peut développer des échanges bien plus profonds avec des gens qui sont pas du même pays et qui n'ont pas même le même langage que nous.
Bien sûr, ouais.
Donc c'est ce que j'ai pu constater à plein de reprises. Donc quand je vais à l'étranger, que ce soit en Espagne ou en Afghanistan, j'ai eu l'occasion d'aller en Afghanistan en 2014 avec le projet Wall Beach Consortium, où c'était dans le cadre d'un échange culturel entre l'ambassade française et l'Institut français afghan à Kaboul. Donc 10 jours d'échange et de mise de travail avec des Afghans, donc on parlait pas la même langue à part l'anglais, on parlait anglais. Finalement, on a quand même réussi à mettre en place tout un répertoire, un programme au bout de 10 jours pour faire un concert à la fin, et ça s'est très très bien passé. Et voilà, c'est un langage universel de toute manière. Et une fois, pour nous, c'est ça vraiment le fait d'avoir tous ces atouts, ça nous permet vraiment une liberté. Et voilà, c'est ça qui est important aussi. La musique, c'est fait pour ça, c'est pour pouvoir aller discuter avec des gens qui n'ont pas la même culture et pouvoir échanger. Voilà, c'est ça qui est important aussi. Dans le duo Garcia, c'est ce qu'on prône aussi, c'est que nous, on joue pas une musique d'un seul pays. On aime aller où on veut, et on aime beaucoup réadapter des morceaux comme on fait en jazz. On joue des standards de jazz qu'on réadapte, qu'on réarrange, et c'est exactement ce qu'on fait avec le duo Garcia, mais lutte afghan, derbouka, percussion. Et voilà, on va retrouver différents morceaux, donc plus ou moins respectés, plus ou moins arrangés. D'autres, on a vraiment arrangé les choses, et d'autres qu'on a respectés un peu plus tels qu'ils étaient.
Alors justement, les morceaux que vous proposez, ce sont des compositions ou justement des arrangements de pièces qui existent déjà ?
Alors on est vraiment sur de l'arrangement de pièces qui existent, comme disait Ellie, ou plus ou moins arrangé. Mais même si un morceau, on va le jouer relativement tel quel, le simple fait, comme je disais tout à l'heure, le simple fait de le jouer derbouka robab, change la donne, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, on va devoir l'adapter. Parce que moi je peux pas faire sonner mes percussions comme une des tablas, et puis c'est pas le but d'ailleurs, c'est pas de jouer des tablas sur ma derbouka, c'est de trouver un espèce de, enfin on l'a jamais verbalisé d'ailleurs, on s'est jamais dit le but c'est ça, mais en fait il y a un truc qui est super marrant quand on se retrouve à bosser des morceaux, particulièrement les morceaux afghans, parce que du coup c'est les morceaux qui, on va dire, sont les plus loin de l'esthétique de la derbouka, mais en fait dans toutes les rythmiques qui sont très très riches, les rythmiques du Maghreb, que par exemple quand on passe d'un pays à l'autre, on va retrouver des rythmiques proches mais dont les appuis sont pas les mêmes. Par exemple, c'est-à-dire du Maroc à l'Algérie, on va avoir des rythmes très similaires, mais la basse et l'aigu vont être échangés. Et rien que cette petite différence change le rythme. Il vient de là et il vient plus d'ici. Et tous ces rythmes-là, toutes ces manières de jouer, tous ces riffs-là, eh bien, il y en a beaucoup qui sont vraiment en commun avec les esthétiques d'Afghanistan. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que instinctivement, sans même se poser de questions, ces esthétiques qui sont les plus proches de l'Afghanistan, viennent coller tout de suite l'esthétique du rebab, le phrasé. Il y a un phrasé particulier, ouais, en fait, dans la musique afghane, très proche de la musique indienne, comme ça. Et donc, le simple fait, même sans décider d'arranger, déjà, on se retrouve à faire ça. Et alors, le plus souvent, nous, on aime beaucoup arranger, on aime beaucoup mélanger des morceaux, mélanger les morceaux de deux artistes, par exemple, même mélanger des morceaux qui viennent d'Afghanistan et d'autres qui vont venir du Maghreb. Tout est possible, tout est réalisable.
Du coup, parmi les morceaux que vous réarrangez, quels sont les artistes du coup qui vous inspirent, genre des artistes afghans, pour en citer quelques-uns?
Alors oui, j'ai eu la chance de rencontrer antérieurement j'avais rencontré Khaled Arman, donc qui avait collaboré dans le projet électro afghan dans lequel j'ai travaillé pendant 3 ans, avec lequel je suis parti à Kaboul. Et donc Khaled Arman, j'ai pu échanger avec lui. Donc c'est un grand joueur de lutte afghan, très très réputé, issu d'une famille de musiciens. Donc c'est vraiment une, comme en Inde, ce sont des castes de musiciens de famille, donc de père en fils, ça se transmet comme ça. Donc j'ai rencontré Khaled Arman et j'écoute beaucoup beaucoup de joueurs de lutte afghan, Mayoun Sahri, qui lui, pareil, est une sorte de virtuose du lutte afghan. Et donc après, il y a pas que des joueurs de lutte afghan qui nous inspirent. On reprend aussi dans le duo Garcia des morceaux traditionnels d'un très grand chanteur très très populaire en Afghanistan dans les années 50-60 que vous pouvez retrouver sur le CD, qui sur le titre Shodabo Atralat. Et donc c'est un chanteur très très populaire qui s'appelle Ahmad Zahir, qui est une sorte de Elvis Presley afghan.
D'accord.
Tout le monde connaît Ahmad Zahir, il était très très réputé et il s'accompagnait, il était chanteur et il s'accompagnait à l'accordéon.
D'accord.
Puisque l'accordéon est arrivé en Afghanistan, je sais plus, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, mais c'était arrivé, je sais plus, dans les années 30-40, et l'accordéon faisait partie vraiment de la musique populaire afghane à cette époque-là, puisque faut savoir que l'Afghanistan était un pays très très libre dans les années 50-60, avant qu'il y ait, dans les années 70, l'invasion d'extrémisme taliban et toutes les guerres qui se sont passées de toujours. En fait, c'est toujours un pays très compliqué politiquement,
Eh bien, très bien, on va continuer à parler de tout ça. On va juste faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. retour avec le duo Garcia et on vient d'entendre One Time de Rabbi Aboukhalil. Ce morceau est extrait de votre dernier album. C'est un arrangement que vous avez fait de ce morceau. Alors, qui est justement ce musicien ?
Alors, Rabbi Aboukhalil, c'est un musicien très populaire qui est un joueur de oud, compositeur, arrangeur, qui est d'origine libanaise et qui nous intéresse beaucoup puisque ça fait des années qu'on le suit, qu'on écoute sa musique. Et c'est un musicien très intéressant puisqu'il fait beaucoup de fusion donc entre musique traditionnelle libanaise et écriture, tout ça. Et dans ses projets, en général, on va retrouver des musiciens de jazz américains. Et donc la
du
fusion...
Du monde entier.
Du monde entier, ouais.
Du monde entier. Son équipe, elle est complètement cosmopolite.
Et donc, voilà, on va retrouver dans ses musiques vraiment des sonorités de jazz... qui font vraiment du bien à entendre, je trouve. Enfin, nous, on est particulièrement attachés à cette esthétique de musique, en tout cas des fusions de cultures comme ça. Et on trouve vraiment que dans la musique de Rabbi Aboukhalil, c'est très clair, quoi, et c'est très présent.
Alors là, c'est marrant de parler de ça aussi, c'est que nous, on parle de musique traditionnelle et on parle de fusion là. Mais je pense que si on fait écouter, même là, si on écoutait Rabbi Aboukhalil, il y a 99% des gens qui vont prendre ça pour de la musique traditionnelle. Et ça, je pense pas que ce soit rangé dans le rayon de jazz, ni dans un autre rayon que musique traditionnelle. Et c'est marrant de parler de ça parce que aujourd'hui, en fait, il y a tout un tas de musiciens, de chanteurs, chanteuses qui font, en fait, comment on les classe ? C'est quoi la musique traditionnelle ? C'est quoi la musique orientale ? C'est beaucoup trop large. Du coup, il faut parler de où ça vient. Donc, ça va être de la musique turque. Ah oui, mais la musique turque, c'est quelle époque ? C'est quel peuple en Turquie ? Enfin, c'est hyper compliqué, en fait, de parler de tout ça. Et là, tu vois, quand on parle de fusion avec Rabbi Aboukhalil, bon, bah, c'est nous, en tant que musiciens, qui parlons, on le sait, on le voit, les instruments nous disent que c'est de la fusion. Mais en vrai, l'esthétique est quand même très, 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 très traditionnelle. Et en fait, le côté jazz, ça va être les instruments, quoi. C'est les instruments choisis. Après, ça aurait été bien d'écouter un truc, c'est vrai que c'est dommage. Mais si vous avez l'occasion d'écouter du Rabbi Aboukhalil, vous verrez qu'il y a une dizaine de cuivres qu'on va retrouver, les mêmes qu'on retrouvera dans un big band. C'est vraiment, c'est en ça qu'il y a un gros gros poids du jazz dans Rabbi Aboukhalil. Mais ils jouent tous à l'unisson des thèmes complètement d'origine traditionnelle. Et donc ça devient de la fusion. C'est parce que ça n'existe pas à la base de cette section d'instrumental. Mais c'est vrai que bon voilà, faut le savoir.
Bah, c'est des musiciens qui ont, je pense, un parcours vraiment traditionnel. Un enseignement traditionnel sur leur instrument et qui ont ensuite, eux, développé des fusions.
Et donc, bah, par exemple, Léna Chamamian, c'est une chanteuse qu'on aime beaucoup, beaucoup, et qui est vraiment dans ce délire-là dont parlait Ellie, de fusion, mais on n'est pas dans le jazz-rock fusion, quoi, qui est évidente, en fait, où là, la fusion est évidente. Là, on est dans des trucs, dans des fusions fines, qui sont très bien faites, très bien léchées, comme, et qui sont très, très, très belles. Et nous, on aime beaucoup ce mélange, justement, un petit peu... qui se ressent pas forcément pour tout le monde, nous on se rend bien compte qu'il y a du mélange, mais voilà, il y a un côté exotique dans l'exotique, quoi. C'est-à-dire que ça va être une arménienne, enfin une femme qui est d'origine arménienne, qui est turque, et qui va chanter de la musique trad, mais empreinte de jazz latino. Mm-hmm. Et donc là, ça va peut-être un peu plus voyant, quoi, qu'il y a cette fusion. Mais...
Alors la plupart justement de vos morceaux, c'est uniquement instrumental, hein. Il n'y a pas la volonté d'écrire ou justement de mettre des paroles dessus.
Des paroles, non. Éventuellement d'inviter un chanteur ou une chanteuse à voir. Après, on en parle. Des fois, il y a beaucoup de gens après nos concerts qui nous disent « Ah, du chant, ça serait bien, tout ça. » C'est vrai qu'on n'est pas vraiment attiré par ça. On aurait plutôt tendance à ouvrir le duo sur un trio, éventuellement... avec un contrebassiste et partir sur des compositions vraiment propres.
Pour parler de votre EP, hein, votre album qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois.
Ouais, c'est ça, il y a 3-4 mois.
Donc là, c'est pareil, hein, c'est des arrangements en fait, hein, de morceaux de musiciens traditionnels ou de musiciens...
Alors, il n'y a aucune composition, il y a même des morceaux dont on ne sait pas d'où ils viennent.
D'accord.
Donc, on
ne
sait pas qui les a composés. Alors sur l'EP, Sahara Soufi par exemple, on ne sait pas d'où il vient celui-là.
Bah, Sahara Soufi, pour nous, c'est, oui, c'est
on connaît pas
traditionnel égyptien, on sait pas vraiment d'où ça vient exactement.
Parce qu'en fait, il y a beaucoup de morceaux comme ça, enfin, soit on sait pas encore, soit personne sait.
Mais
il y a des morceaux où on sait que personne sait d'où ça vient, et il y a des morceaux où juste on n'a pas encore trouvé d'où il vient, quoi. Mmh. Et par exemple, Sahara Soufi, c'est un morceau qu'on va retrouver, qui est joué comme beaucoup de morceaux, hein, comme dans le milieu du jazz, c'est des standards, quoi.
Ouais.
Et donc, on a écouté plusieurs versions, on sait qu'il est repris, qu'il est vieux, mais on sait pas d'où il vient, on n'a pas encore trouvé d'où il vient. ce morceau-là.
Donc on peut retrouver 5-6 titres en fait hein, sur cette sur cette EP. Et est-ce que vous avez d'autres projets à venir, d'autres justement d'autres albums, d'autres EP où vous êtes en train de composer peut-être?
Eh ben non, il y a pour l'instant on est toujours en train de
faire vivre cet album là, ouais.
Voilà, et puis le set est toujours en train d'être agrémenté. On n'est pas vraiment en mode tiens, on va jouer ce set là pendant un an, puis au bout d'un an, on va refaire un nouveau set. On est tout le temps en train de rechoper des nouveaux morceaux. Enfin, c'est pas qu'on le fait non plus tous les jours, mais c'est que il y a une régularité dans les nouveaux morceaux qui arrivent dans le set, puis dans ceux qui disparaissent, ou en tout cas qui sont un peu remplacés, et puis notre set évolue tout le temps comme ça. Je sais pas, par exemple, dernièrement, on a fait un concert, on nous a proposé de reprendre des morceaux qui étaient vraiment en plus ancrés dans un pays, tout ça. Bah, on l'a fait avec grand plaisir, on est super content de faire ça. Et puis en fait, on fait ça, que ce soit pour un mariage, ou que ce soit pour nous, que ce soit pour... Enfin voilà, on aime beaucoup faire ça. Donc souvent, il y a des nouveaux morceaux qui arrivent, et puis dans pas si longtemps que ça, bah, il y aura de quoi faire un nouvel EP. Enfin, il y a déjà de quoi faire un nouvel EP, hein, au final, on a 2 heures de set en tout. Il y aurait largement de quoi faire un album, même si on voulait.
Alors, vous jouez pas mal dans le coin, hein, finalement. Vous êtes principalement, vous faites des concerts principalement dans la région. Vous arrivez un peu à jouer ailleurs ou peut-être à l'étranger même.
Alors, pas pour l'instant, pas encore à l'étranger, mais ça pourrait arriver, oui. Mais on joue, oui, bah, principalement dans la région. Donc là, dernièrement, on a joué au Temps Machine pour une date plutôt chouette. C'était en première partie de Bachar Marc Khalifé. Et donc après on joue beaucoup dans les bars de Tours, dans des salles Salle Que Game ou dans des endroits comme ça de Tours. Ouais, voilà, on est en lien beaucoup avec le Petit Faucheux, Jazz à Tours, le Temps Machine. Oui. Donc pour des concerts chez l'habitant, voilà, il y a des choses comme ça. Et on a eu l'occasion aussi là depuis 2-3 ans d'aller jouer en Dordogne l'été. Et aussi dans le sud de la France, vers Toulouse. On a eu l'occasion de faire une petite tournée comme ça dans le sud.
D'accord. Alors justement, j'ai lu aussi que vous jouez chez l'habitant. Ça, c'est donc c'est des concerts chez l'habitant. Vous pouvez nous expliquer un petit peu l'idée?
Ouais. Alors c'est vrai que c'est un truc qui se fait de
plus en
un
plus,
truc assez récent. Enfin, c'est pas que c'est récent, mais c'est vrai que c'est un truc qui se fait de plus en plus. Ouais. Et nous, on aime beaucoup faire ça.
Bah
c'est,
oui.
Je me demande même si c'est pas un peu ce qu'on préfère. En tout cas, le côté intimiste et l'écoute qu'on a dans ces événements-là. C'est génial, quoi. C'est-à-dire que on arrive chez quelqu'un, c'est vraiment chez n'importe qui, chez vous, moi, avec un petit salon sympa, toujours des gens très accueillants. Enfin, on en a pas fait des milliers non plus, hein, mais voilà. Et donc, le principe est super sympa parce que pour les musiciens comme pour le public, il y a un truc hyper intimiste. On est dans le salon de chez quelqu'un, on n'est pas du tout avec une barrière. Enfin, nous, on défend vraiment ça aussi. C'est-à-dire que, sans rien dire, ces concerts-là défendent un point de vue qui dit, la musique, c'est pas un piédestal. Un musicien, moi, en tout cas, je pars du principe que personne ne devrait être mis sur un piédestal, déifié, comme beaucoup de gens le font.
Donc en tout cas, si les gens sont intéressés, peut-être qu'ils peuvent se référer sur une page Facebook, je ne sais pas, ou un site sur lequel ils peuvent vous contacter.
Oui, alors on a un site et on a une page Facebook. Alors si vous n'arrivez pas à retrouver notre site internet, vous allez sur notre page Facebook et le site est en lien sur notre page et vous aurez aussi des vidéos accessibles sur notre page Facebook.
Plein de photos, plein de choses.
Et puis les concerts qu'on annonce toujours sur Facebook.
Alors justement, avant de terminer, est-ce que vous avez des prochaines dates dans le coin? Décembre,
alors,
janvier peut-être?
On a
une date à la fin du mois à Orléans.
Alors avant on est invité par le Balkanic Orchestra,
ouais,
qui nous invite sur un petit concert au Balkanic où on est très content d'être invité par eux, donc on va faire 2 petits morceaux avec eux.
Quelle date, vous avez une idée?
Et c'est le 22 décembre.
D'accord.
Au Balkanic.
OK, à Tours.
À Tours, voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas le Balkanic Orchestra, c'est un ensemble de cuivre avec un tapane et qui joue des standards, enfin pas des standards, qui joue des morceaux des Balkans, d'Europe de l'Est, c'est super. Et c'est des potes à nous pour une partie et on aime beaucoup ce qu'ils font. Ça fait longtemps qu'on se connaît les uns les autres et qu'on joue ensemble. D'ailleurs, moi, je joue dans un autre projet avec un des saxophonistes de là-bas. Donc, il y a vraiment du lien entre tout ça.
Oui.
Et puis, là, on est super contents d'aller jouer avec eux pour 2 petits morceaux.
D'accord.
Et il y a le 29 après
décembre. Et le 29, à Orléans, à la rue Chansène.
Eh bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler donc du duo Garcia.
Merci
à toi. Nous avoir invités. Merci
à vous.
Merci à toi, Audrey. Merci à David et Radioactive. Merci à vous.
Et bien, merci beaucoup à la technique. C'était donc David Marion. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro.
Salut.